Radio Kapi.
Oh, Kapi.
C'est l'heure de vous informer sur Radio Okapi émettant depuis Kinshasa. Dans la partie est de la RDC, la progression du mouvement rebelle M23 dans le territoire de Masisi inquiète la société civile locale. Sa coordination invite le gouvernement et l'armée à des actions urgentes et efficaces. Voilà qui ouvre ce journal. À suivre aussi dans cette édition, cette satisfaction couplée à une interpellation de la part de la synergie des organisations syndicales et sociales concernant le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG au profit des travailleurs congolais. Elle plaide pour une politique nationale des rémunérations. Le commissaire lacustre du lac Albert est invité de ce journal. Avec lui, nous parlons conditions de navigation. Pierre-Marie Oudarulama déplore le manque des ports au lac Albert. Il nous dresse également un bilan de la navigation en 2024. Tout de suite, découvrons les autres faits d'actualité à travers les différentes provinces du pays. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Billy Yvan Lutumba devant ce micro pour la présentation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nord Kivu, la société civile de Masisi appelle à une action urgente pour stopper la progression de l'ennemi, notamment le M23. Sa coordination territoriale se dit inquiète de voir cette avancée des rebelles qui ont lancé simultanément les offensives sur plusieurs fronts dans le Masisi. Cela après quelques semaines d'accalmie apparente. Ce vendredi après-midi, la localité de Katale, dernier verrou du chef-lieu du territoire de Masisi, est passée sous occupation des rebelles du M23. C'est à l'issue des violents combats qui les ont opposés au FRDC appuyés par les groupes armés locaux toute la journée de ce vendredi, alors que Luchéber et Masisi centre, environ 10 km de Katale, se vident de leurs habitants. Telesfor Mitonde, qui est président de la société civile de Masisi, décrit la situation. Il est joint par Denise Loukesso.
L'ennemi qui a concentré en tout cas des assauts de grande envergure sur les collines qui surplombent Katale. Et à travers ces assauts, l'ennemi vient s'emparer de la cité de Katale, faisant ainsi plusieurs victimes parmi les civils. Plus d'une dizaine de civils blessés sont admis déjà à l'hôpital général de Masisi et d'autres victimes à Luchéberé sur le même axe. Vaudra noter aussi des affrontements qui ont encore émaillé la même journée d'aujourd'hui sur l'axe Kaira et sur l'axe Bweremana aussi, faisant ainsi 6 victimes parmi les populations, dont des femmes tuées à Renga et 4 personnes blessées. C'est le sang qui a encore coulé sur l'ensemble du territoire de Masisi aujourd'hui. Même la cité de Masisi, soit en tout cas une agglomération fantôme. On note les déplacements massifs des populations de plusieurs agglomérations. Donc la situation va de mal en pis dans la région. L'armée rwandaise ne cesse de se renforcer dans la région sur les axes Katale, sur les axes Kaira et même aux alentours de la cité de Sake. La situation s'empire davantage et donc ça révolte. Et cette question mérite une prise en charge urgente.
Et dans la localité de Bweremana, groupement Mufuni Shanga, un calme précaire est observé après des combats ce matin dont le bilan civil est de 2 femmes tuées par les bombes larguées par les M23 à Renga et 5 blessés. Une délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie a séjourné jeudi dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon des sources sécuritaires, cette délégation avait pour mission de vérifier l'implication du Rwanda dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Une visite qui intervient 12 jours après la capture au front le 21 décembre d'un présumé soldat de l'armée rwandaise par les FRDC. André Kitenge nous fait le point.
C'est sur invitation du gouverneur de la province du Nord Kivu et du commandant des opérations du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord que cette délégation est arrivée jeudi à Lubero Centre, à environ 50 km des lignes de front. Selon le colonel Makazukai, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, l'objectif de cette délégation était de se rendre compte de l'implication directe du Rwanda dans la guerre de l'Est à travers le mécanisme conjoint de vérification élargie et d'autres structures qui prônent le retour de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. La même source ajoute que les membres de cette délégation se sont entretenus avec le présumé soldat de première classe de l'unité spéciale de l'armée rwandaise, capturé au front par les FRDC le 21 décembre 2024 lors des affrontements avec les FRDC dans le village de Ndolouma, au sud du territoire de Lubero. Enfin, plusieurs effets militaires, dont des armes, des bombes et autres épaves de drones récupérés sur les champs de bataille, ont été également présentés à la délégation, renseigne le colonel Makazuka. Kasai. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
À propos toujours de cette présence nocive des terroristes du M23 dans la partie est de la RDC, l'ONG Makoki International Hub MIH lance une campagne de sensibilisation sur le procès des violations massives des droits des humains commises au Nord Kivu, actuellement devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans un communiqué du 28 décembre passé, Makoki International Hub affirme que selon le vice-ministre congolais de la justice chargé du contentieux international, une audience publique se tiendra le 12 février 2025 au siège de la Cour africaine pour statuer sur ces accusations. Rappelons que la RDC a déposé une requête depuis septembre 2023 où elle accuse le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Suivez Maître Arlette Kitumaini, directrice exécutive de Makoki International Hub dans ses propos recueillis par Blaise Chindali.
Ce procès est crucial car il représente une opportunité significative de rendre justice aux victimes des violations massives des droits humains en Nord Kivu. En tenant les responsables de ces atrocités pour compte, il envoie un message fort aux auteurs des violations qu'ils ne peuvent agir en toute impunité. De plus, ces procès pourraient établir des précédents juridiques importants pour des cafetiers, renforçant ainsi la protection des droits humains en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Pour ce faire, Makoki International Hub lance cette campagne de 6 semaines où des contenus médiatiques tels que des articles, vidéos et infographies seront produits pour mobiliser et informer le public sur le procès et son importance. Nous demandons alors au public de rester informé et de partager les informations sur le procès pour sensibiliser davantage. Au gouvernement congolais, nous demandons de garantir la transparence et de soutenir les victimes tout au long du processus.
Nous quittons le Nord Kivu pour la province de l'Ituri. La Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, se fait ici des résultats de l'opération Shuja dans cette province pour l'année 2024. Il s'agit des opérations militaires conjointes des armées congolaises AFRDC et ougandaises UPDF contre les rebelles des ADF. Bien qu'il existe encore de nombreux défis à relever dans le cadre de ces opérations, cette organisation de défense des droits humains note une certaine accalmie imposée par cette coalition dans plusieurs entités des territoires d'Irumu et Mambasa. Christophe Mouniandero, coordonnateur de la CRDH en Ituri, explique au téléphone de Sadiq Aboubakar.
Nous avons observé une accalmie dans certaines entités occupées par les terroristes et ADF. La chefferie de Banyali Tchabi, Baema Mitego ont été libérées. Il y a eu des opérations vers la partie de la chefferie de Walese Vokutu et l'ennemi a pris la direction vers le territoire de Mambasa où ces mêmes opérations ont été lancées. Il y a eu aussi libération de certains otages. Et ce qui est déplorable, c'est que les opérations, tout d'abord, selon notre observation, ont été mal planifiées. Parce qu'on semblait refouler l'ennemi vers d'autres zones là où il y a encore la population. Et c'est de là qu'il menait des attaques contre les populations civiles. Quand nous avons alerté sur la traversée de l'ennemi vers le territoire de Mambasa, et les militaires engagés dans ces opérations Shuja n'ont pas pris les mécanismes de voir comment protéger les entités conquises. Et vous verrez, ces dernières semaines du mois de décembre 2024, l'ennemi a multiplié ses attaques sur la RN4, ses anciennes bases dans le territoire d'Irumu.
Pour 2025, cet activiste des droits de l'homme recommande le renforcement des effectifs des militaires ougandais et congolais engagés dans ces opérations afin de relancer la traque des rebelles des ADF comme cela a été le cas au début de l'opération Shuja. Nous sommes à présent dans le centre du pays au Kasaï oriental. Vive tension entre les habitants des groupements des Benamwimbia et Benashimba dans le territoire de Katanda. D'après les autorités locales, un groupe d'habitants de Benamwimbia munis d'armes et des machettes ont fait irruption ce jeudi dans la localité des Bakwamasela dans le groupement de Benashimba. Une situation qui a occasionné un déplacement des populations vers le chef-lieu du territoire, affirment les autorités locales. Explication d'Esther Dalafina.
Les sources sur place indiquent que quelques habitants de la localité de Bakwamasela dans le groupement de Benashimba ont été surpris par leurs voisins de Benamwimbia munis d'armes de guerre et de machettes. Ces intrus ont tiré quelques coups de feu et incendié certaines maisons tout au long de la rivière Lubilaji avant de se retirer. Les forces de l'ordre venues pour s'enquérir de la situation ont découvert 2 corps sans vie dans un champ. Les défunts sont originaires du groupement de Benashimba. Bakwa. Les mêmes sources précisent que cette situation a créé une panique au sein de la population qui s'est déplacée en masse vers le chef-lieu du territoire. Rappelons qu'il y a plus d'une année, une équipe mixte d'interposition FRDC-PNC a été déployée dans ce territoire. Cependant, plusieurs éléments de la PNC sont retrouvés en Mbujimayi par manque de rations alimentaires sur place à Katanda, ont-ils signalé. Notons qu'il s'agit ici d'un vieux conflit foncier qui ne cesse d'opposer trois groupements du territoire de Katanda et qui a déjà causé plus d'une centaine de morts. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Province du Maniema, le commandant des FRDC lance un appel à tout militaire se trouvant en transit à Kindu, soit en raison de maladie ou de congé, de se faire identifier au camp Luama. Selon ce dernier, c'est toujours dans le cadre d'assurer une bonne sécurisation des populations et de leurs biens. On écoute capitaine Ntambwe Makoyo du centre d'entraînement commando Luama dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Je suis devant la presse et apporté un message venant du commandant garnison à l'intérim et commandant placé à Kindu, le colonel Mufumbi JC, s'adressant à tous les militaires se trouvant ici à la ville de Kindu en raison 1. Aux soins médicaux, si un militaire qui se trouve ici pour les soins médicaux, en transit, s'il est de passage vers une autre zone ou bien il veut rejoindre son unité, et aussi il est venu pour son visite familiale. Alors, tout militaire de se présenter au bureau du commandant garnison au Kaluama pour présenter cette feuille de route et après ce délai, si la personne ne se présente pas, l'auditorat fera son travail. Ce travail, c'est juste identifier tout militaire qui est ici à Kindu illégalement ou bien légalement. Alors, à partir de ces documents, feuille de route ou bien les notes, les attestations militaires, c'est par là on saura que ce militaire il est à l'ordre ici à la ville de Kindu. Militairement, tout d'abord, le service intérieur travaille, mais eux, il peut y avoir les malades à l'hôpital selon des raisons, il peut rester à la maison, mais le délai c'est 72 heures. Voilà le délai.
En plus bref, dans la ville de Boma au Congo central, 48 heures après les festivités du Nouvel An, la Fédération congolaise des droits de l'homme a présenté à la presse vendredi le bilan de la situation sécuritaire avant, pendant et après cette période festive. Dans son rapport, cette structure juge de positif ce bilan sécuritaire. Elle félicite et encourage la bravoure dont a fait montre la police nationale congolaise de cette ville. Et ce rapport a été présenté par Gabriel Makiese, coordonnateur de cette ONG. Deuxième titre de ce journal, la synergie des organisations syndicales et sociales a salué vendredi le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG au profit des travailleurs congolais de 7 000 à 14 500 francs congolais. Réagissant à Radio Okapi, le porte-parole de cette organisation citoyenne a cependant encouragé le gouvernement à faire mieux en mettant en place une politique nationale des rémunérations. Selon Jean Bosco Puna, cette nouvelle politique aura l'avantage de réduire le train de vie des animateurs des institutions ainsi que les inégalités salariales entre agents et fonctionnaires de l'État. Suivez sa réaction au micro de Blaise Nongala.
Cependant, cette mesure aura du mal à s'appliquer sur le terrain si les inspecteurs du travail à qui sont assignés les contrôles et le suivi ne sont pas mis dans les bonnes conditions du travail. 14 500 francs congolais jour de SMIG, là où bien sûr ça sera appliqué, eh bien ça fait exactement 140 $. Les travailleurs continueront à travailler dans les conditions difficiles. La voie de sortie pour le gouvernement, c'est de mettre en place une politique nationale de rémunération qui aura l'avantage de réduire les trains de vie des animateurs des institutions, de réduire les inégalités salariales criantes pour que la masse laborieuse soit sécurisée et produise beaucoup, produise davantage pour la République. Et donc, la responsabilité aujourd'hui incombe au président de la République, chef de l'État, qui doit prendre son courage pour lancer les travaux sur la politique salariale.
Des cas suspects de méningite sont rapportés dans la zone de santé de Banalia, précisément dans l'agglomération de Mangui. Banalia est située à 128 km au nord de Kisangani. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, déclare le service des communications de la division provinciale de la santé, des cas suspects de cette maladie sont signalés dans la communauté. En vue de faire face à cette situation, une équipe du personnel médical a été dépêchée sur les lieux en vue d'une intervention. André Kité, Jacques Mkonkole nous en parle.
Au début de cette semaine, un superviseur de la zone de santé de Banalia a rapporté 7 cas de cette maladie, dont 5 décès. Les signes que présentent les malades sont similaires à ceux de la méningite. Selon Jojo Bolemé, les cas sont nombreux dans la communauté avec toutes les conséquences sanitaires que cela implique. Toujours selon lui, les malades sont soignés traditionnellement puisque la population manque de culture médicale. Les prélèvements effectués auprès de certains malades ont été expédiés à l'INRB à Kinshasa pour déterminer la nature de cette maladie. Par rapport à ces prélèvements, la division provinciale de la santé déplore la lenteur avec laquelle les résultats sont communiqués à l'intérieur de la province. Qu'à cela ne tienne, John Mundele, chargé de la communication dans ce service, déclare qu'une équipe médicale est dépêchée sur les lieux pour la prise en charge des malades. Une fois les résultats connus, ils seront fixés sur la nature de cette maladie dont les signes s'apparentent à ceux de la méningite. Si les seuils exigés est atteint, dit-il, le gouverneur de province sera appelé à se prononcer clairement et officiellement sur la maladie en question. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La crise post-électorale au Mozambique a poussé près de 3000 personnes à partir à l'étranger pour fuir les violences. Près d'un millier d'entre eux ont traversé la frontière pour rejoindre Eswatini où ils sont dans l'attente de réponse à leur demande d'asile. Le centre des réfugiés de Malinza, dont la capacité initiale est de 250 personnes, est débordé et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est en quête de financement pour accueillir de nouveaux arrivants. Une situation qui se répète au Malawi où près de 2000 réfugiés du Mozambique sont arrivés en une seule semaine, selon les Nations Unies.
L'invité.
Un cas de naufrage et 3 cas de chavirement avec une perte énorme des marchandises ont été enregistrés sur le lac Albert en 2024. Ce bilan a été dressé jeudi par le commissaire lacustre lac Albert dans une déclaration faite à Radio Okapi. Au-delà des efforts locaux pour limiter les cas d'accidents lacustres, Pierre-Marie Oudard Oulama affirme que le manque de port au lac Albert est un défi important à relever. Il est notre invité et il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Pierre-Marie Oudard Oulama, bonjour.
Bonjour.
Quel est le bilan de la navigation sur le lac Albert pour l'année 2024?
Nous avons connu seulement un seul cas de naufrage d'une embarcation qui quittait l'Ouganda, dont le dommage était la mort de deux personnes. Une maman avec son fils et puis la perte de 30 tonnes de haricots. Et c'était sur la rive ougandaise. La cause était le vent violent. Et d'autres cas que j'ai enregistrés au port de Kasséni, c'est le chavirement de 3 embarcations au port de Kasséni sur place au mois de septembre suite à l'orage. L'orage, c'est le vent violent qui arrive brusquement et les 3 embarcations étaient au port en train de décharger. Surtout que nous n'avons pas de port, le bateau accoste sur la terre ferme. Et ce sont quel type de bateau? Ce sont les bateaux à bois. Alors imaginez le sort quand ils doivent faire de manœuvres. C'est ce qui a créé le chavirement de 3 embarcations dont les dommages étaient perdus. De ciment, de divers. Pour l'année 2024 écoulée, en tout cas, nous n'avons pas connu beaucoup d'accidents sur le lac parce qu'on a veillé à cela. Nous avons vraiment été stricts, contrôlé le départ, l'arrivée, le chargement de personnes et de biens sur le lac Albert. Nous avons même harmonisé, grâce au concours de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui nous a envoyé en Ouganda pour harmoniser avec les collègues des deux ports, de Toroko et de Bouguma, ce qui nous a facilité. On n'a pas enregistré beaucoup de naufrages, ni de chavirements, ni des accidents sur le lac Albert.
En dehors des naufrages et chavirements des embarcations, qu'en est-il des cas de noyade?
C'est vers les îles de Lukwanzi. Les îles de Lukwanzi, c'est l'île marécagée qui se trouve à la limite sur le lac Albert entre l'Ouganda et le Congo. Là, nous avons enregistré les noyades des 20 pêcheurs. Suite à quoi? Suite à l'ivresse. Donc, ils ont construit des cases sur le marécage et quand ils prennent de la boisson alcoolique, ils ne se contrôlent plus. Ils descendent parfois, ils croient qu'ils sont sur la terre ferme, cherchent à marcher comme ça. Alors, c'est ce qui occasionne la mort de plusieurs personnes. Ces îles-là, il y avait des sables là-bas. Mais maintenant, suite à la montée des eaux du lac Albert, les gens habitent sur l'eau. Donc, c'est grave. C'est un lieu déjà qui est devenu très dangereux pour l'habitation des personnes. Donc, la terre ferme ne se fait plus voir suite à la montée des eaux du lac Albert. C'est ainsi qu'ils ont créé des cases sur l'eau Donc c'est ça le danger qui s'est fait voir à Rukwanzi.
Vous avez dit au début que le lac Albert ne disposait pas des ports. Comment expliquez-vous cela?
Monsieur le journaliste, à Kasséni, il n'y a pas de port. Les quais créés depuis 1942 par le Belge est immergé sous l'eau depuis 2019 jusqu'à ces jours. Les quais de port de Mahagia Port est immergé sous l'eau depuis 1966. Donc les catastrophes sur le lac Albert, c'est le manque de port. Pendant que les activités des transports sont à grande échelle. Il y a des véhicules qui viennent du Sud-Soudan, les véhicules du Kenya, les véhicules de Tanzanie, les véhicules de l'Ouganda. Mais quand ça arrive au port de Congo, à Kasséni, à Tchomia, nous enregistrons des chavirements parce qu'il n'y a pas des endroits conformes pour recevoir toutes ces embarcations-là et tous ces bateaux-là. Voilà le plaidoyer. Je demande au gouvernement de songer à construire ne fût-ce qu'un quai alors par territoire à Kasséni, à Tchomia et à Mahagi Port. Vraiment, ça sera un signe de développement dans la province de l'Ituri. Monsieur le journaliste.
D'après vous, pour terminer, quelle est l'importance d'avoir des ports modernes au lac Albert?
Monsieur le journaliste, les marchandises qui viennent du Kenya, de Tanzanie, qui viennent de l'Ouganda, ça ne se limite pas seulement à Ituri. Ça progresse jusqu'à la province de Tchopo, de Haut-Ouélé, jusqu'à la province de Bas-Ouélé. Donc la voie lacustre à Ituri, c'est vraiment en grande importance. Vraiment, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre des Transports et Voies de Communication, s'il m'écoutait à la radio au Capi, envoyez ne fût-ce que d'abord des experts pour venir vérifier tout ce que j'ai dit là. Il y a quelque chose qu'on doit arranger à Ituri en ce qui concerne le transport par voie d'eau.
Pierre-Marie Oudar Oulama, merci.
Merci.
À vos auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition du journal qui se termine par là.